14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Un scénario digne d'un James Bond, mûrement réfléchi et répété, un cambriolage à Anvers qui pourrait être le plus grand casse de ces 50 dernières années. Plus d'une centaine de coffres fracturés, des millions d'euros dans la nature, tout comme leurs auteurs.
Bonjour, un casse comme au cinéma. Et encore, on pourrait penser que le réalisateur exagère. L'attaque à l'hiver 2003 du Diamond Center d'Anvers, en Belgique, une forteresse inviolable, renfermant dans son sous-sol des dizaines de millions d'euros de pierres précieuses et de pièces inestimables. Ce casse demeure à ce jour un exploit criminel inégalé. Comment avoir pu pénétrer dans le sein des seins du commerce mondial de diamants sans déclencher la moindre alarme, sans jamais apparaître sur aucune image de vidéosurveillance? C'est cette prouesse, digne d'un tour de prestidigitation ou d'illusionnisme, sans coup de feu ni violence, que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous verrons comment une opération aussi millimétrée et sophistiquée, alors que le coup du siècle était réussi, comment une négligence et un sandwich au salami ont fait trébucher ces cambrioleurs hors pair. Comment quatre hommes invisibles ont violé l'une des salles des coffres les mieux protégées au monde? Qui sont les voleurs? Qu'est devenu le fabuleux butin du Diamond Center? Nos invités et experts vont répondre à ces questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'incroyable casse du Diamond Center à Anvers. En 2003, l'espace d'un week-end d'hiver, la salle des coffres de cet immeuble réputé inviolable, impossible d'accès à tout étranger, cette salle a été vidée et aucune alarme ne s'est déclenchée. Ce lundi 17 février 2003, l'un des six gardiens qui assure la sécurité du Diamond Center prend son service et commence sa tournée d'inspection. Il est 7h du matin et l'immeuble au numéro 911 de la rue Substrat est encore silencieux. Derrière cette façade grise, érigée au pied d'un poste de police au cœur même du quartier protégé des Diamantaires, se cache donc cette étonnante banque de dépôt. Des joailliers du monde entier y entreposent leurs pierres précieuses et montres hors de prix qui attendent d'être vendues. Le gardien visite la petite salle des écrans de contrôle, tout est en ordre. Les portes des deux étages de bureaux sont normalement closes. La tournée se poursuit vers les sous-sols. Au moins un des bureaux encore, rien à signaler. Mais au moins deux, l'étage de la salle forte, c'est la dévastation. La lourde porte, 61 cm d'épaisseur d'acier blindé, est grande ouverte. La herse qui descend derrière est elle aussi ouverte, mais elle a été forcée. La pièce offre un spectacle chaotique. Sur les 189 coffres que compte la salle, 109 ont été ouverts comme de simples boîtes de conserve. Le sol est jonché de tiroirs, de coffrets ouverts, de paperasses diverses. Le gardien, en s'avançant, s'aperçoit qu'il marche sur de petites pierres précieuses, sur des perles arrachées de leur parure et sur quelques montres. Il est abasourdi. Un témoin déclare « C'était comme un cyclone qui serait passé par là. Tous les coffres forts à gauche de la salle ont été forcés. » À 7h30, le Diamond Center grouille de policiers en uniforme et en civil. Les entrées et les sorties de l'immeuble ont été bloquées. Le propriétaire des lieux, Marcel Grunberger, est sous le choc. Des veuves qui avaient gardé là des coffres n'ont plus rien. Un couple a perdu pour 1,5 million de dollars. Une vieille dame, un diamant de 12 carats, soit 500 000 dollars, c'était sa retraite, indique le diamantaire Rob Van Burden au journal Libération. Le comptage du préjudice est en cours, mais il s'annonce d'ores et déjà astronomique. Un premier chiffrage le fixe à 118 millions d'euros. Le commissaire d'Anvers, Eric Sack, et ses deux chefs d'enquête, les inspecteurs Agim de Bruyckaire et Patrick Pace, savent d'emblée qu'ils ont affaire à un gang de professionnels méticuleux et particulièrement bien informés. Le gang qui a frappé au Diamond Center savait que le week-end, aucun gardien ne se trouve derrière les murs. Personne n'est alors derrière les écrans de contrôle vidéo pour observer un éventuel intrus. Tout repose sur la surveillance électronique et les nombreuses alarmes. Celles-ci ont été déconnectées par un spécialiste. Le détecteur de chaleur a été préalablement enduit de graisse de vaseline pour que la température reste figée. Le système électromagnétique de la porte a lui aussi été déconnecté. Les voleurs connaissaient la cachette de la clé spéciale permettant d'ouvrir la porte blindée ainsi que le code d'accès. Une boîte en polystyrène a été placé sur le détecteur de mouvement. Les bandes de vidéosurveillance des 163 caméras ont été emportées, etc., etc. Zéro indice, zéro empreinte, zéro image, zéro témoin. Un casse-record et surtout, un casse-parfait.
C'est du très grand professionnalisme, un vol d'une éclatante simplicité. Ils ont déjoué tous les systèmes de sécurité, imité les passes et obturé les caméras de vidéosurveillance.
Un casse parfait ou presque parfait, puisque, on va le voir, le hasard, la chance, on l'appelle comme on veut, va sourire aux policiers d'Anvers, et cela assez rapidement. On en reste toutefois à ce sentiment de stupéfaction qui va pétrifier toute une ville et tout un pays, et bien au-delà d'ailleurs de la Belgique. Bonjour Eddy Vleesdrager.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct au téléphone de l'heure du crime depuis la Belgique. Vous êtes expert en diamants et en pierres précieuses et l'auteur du livre « Dureté 10 » consacré au diamant. « Dureté 10 », je suppose que c'est le taux d'indice de la dureté d'une pierre ou d'un diamant et de ces diamants qui étaient sans doute dans cette salle des coffres. Un mot, Eddy Vleesdrager, ce Diamond Center... C'est un endroit très particulier, c'est une espèce de vaste bunker infranchissable.
Non, c'est donc un building parmi les autres buildings, Schubstraat, Ovenierstraat, Drijfstraat. C'est donc tout un quartier qui est sous haute protection. Vous avez la police, vous avez les organisations de gardiennage, privé, vous avez des dizaines et des dizaines de caméras, presque tous les mètres vous avez une caméra. Mais naturellement, ceci a été préparé plusieurs mois à l'avance par monsieur notaire Battolo, qui était au fond the brain, comme on dit.
Qui était le cerveau. On va y venir d'ailleurs à toute cette organisation. Oui. Je voudrais juste, Eddy Vleesdrager, que vous nous disiez tout de suite, quand ce vol a été commis, quand ce casse a été commis, je suppose que c'est la stupéfaction. On s'attendait à tout sauf à ce genre d'action.
Oui, naturellement, c'est un building où vous pouvez louer des bureaux. Donc, c'est possible pour n'importe qui, un bijoutier ou un autre négociant peut louer des bureaux. Tandis que vous avez deux bâtiments comme la Bourse du Diamant et les clubs diamantaires. Vous avez aussi des salles des coffres, mais cela, c'est exclusivement pour les membres. Donc, ce qui veut dire, pour devenir membre d'une de ces bourses, il faut passer par un jury qui va contrôler vos activités, qui va vous demander des certificats de bonne conduite et tout. Ce que, d'ailleurs, ce monsieur Leonardo n'avait absolument pas, parce que c'est la première fois qu'il avait
fait. Encore un mot, Eddy Vleesdrager, ce quartier ça se passe en week-end, un samedi et un dimanche, et le cas a sûrement eu lieu le samedi soir. C'est un quartier qui est totalement vide à Anvers.
Oui, certainement la nuit, et ça s'est passé, je crois, si j'ai bonne mémoire, un petit peu après minuit, ils ont commencé et ça s'est terminé à 6h du matin.
Patrick Cojol, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ex-officier au SRPJ de Toulouse, écrivain. Vous êtes notamment l'auteur du livre « Les casses du siècle » aux éditions Papillon Rouge. Et celui-ci, en qualité de casse du siècle, il tient tout à fait son rang. Eddy Vleesdrager l'a évoqué, il est évident que la complicité interne dans ce genre d'opération, elle est patente.
Alors, elle est patente peut-être, mais elle n'a jamais été établie d'après les renseignements que j'ai pu colporter. Après, il faut bien savoir que notaire Bartolo a préparé son coup de 2 ans avant. Donc, c'est pas tout à fait formel. Il a étudié, il a parlé, il a mémorisé, il a photographié, il a peaufiné. Est-ce qu'il a eu une complicité proprement dite. Pas sûr. La complicité, plutôt, elle a été informelle, à mon avis.
Oui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est informé et qui a fait un boulot de sape incroyable. On va y venir à ce travail et on va y en parler évidemment dans cette heure du crime. Il y a quelque chose de frappant dans cette salle des coffres, c'est que bon, le chaos est indescriptible. Il y reste encore plein de bijoux, de billets de banque, etc. Pourquoi tout ça n'a pas été ramassé finalement ?
Alors ça n'a pas été. Ça n'est pas ramassé. Ils en ont ramassé beaucoup, je crois, c'est 109 sur 189. Mais ils ont pris, bien évidemment, ce qui était le plus facilement négociable et le plus difficilement identifiable. Donc, ils ont pris, évidemment, les pièces, l'argent liquide, les pierres, tout ce qui pouvait être, vous le comprenez bien, comme titre, petite œuvre d'art. Non, ils ont laissé.
Oui. Mais ça veut dire aussi, parce que ça, la police va l'établir, la police belge, va dire qu'ils étaient tellement chargés, finalement, chargés comme des mules, on pourrait dire, qu'ils n'ont pas pu emporter tout ça.
Ben oui, ils sont venus en voiture, donc ils ont chargé, ils ont trié quand même, ils ont peaufiné un petit peu ce qu'ils allaient prendre, et puis évidemment, après, ils ne pouvaient pas en prendre davantage.
Voilà. La police estime que les malfrats ont frappé le samedi soir et sont restés 5 heures sur place. Une équipe qui a tout prévu, mais qui n'a pas soigné suffisamment les détails de sa fuite. Ce 17 février 2003, vers 10h, soit 3 heures seulement après que l'alerte ait été donnée au Diamond Center, Auguste Van Kamp arpente son champ en contrebas de l'autoroute E19 en bordure du bois de Machelen. Il tombe alors sur un dépotoir, pas moins de 14 sacs poubelles, plus ou moins éventrés, jetés depuis l'autoroute par un conducteur peu scrupuleux. L'agriculteur est intrigué par leur contenu. Des dizaines d'écrins à bijoux vides, des morceaux de fil de fer, des bandes vidéo déchiquetées, des enveloppes ouvertes à la hâte, à l'entête du Diamond Center. Certaines contiennent des billets de banque déchirée. La police locale est prévenue. Elle fait sans difficulté le lien avec le casse du siècle qui vient de se dérouler à 30 km de là, à Anvers. La fouille des sacs poubelles est instructive. On y trouve pêle-mêle le même ruban adhésif utilisé pour masquer les systèmes de détection, des petites émeraudes, un demi-sandwich au salami qui recèle sans doute de l'ADN et une facture au nom de la société D'Amoro Preziosi. Sans doute tombé lors de l'ouverture d'un coffre, les enquêteurs vérifient. Fait curieux, le coffre de D'Amoro Preziosi, dirigé par le joaillier italien Leonardo Notar Bartolo, est l'un de ceux qui est resté intact. Un autre nom apparaît sur une carte de visite déchirée, celui d'un certain Elio D'Onorio, lui aussi ressortissant italien, domicilié dans la petite ville de Latina, au sud de Rome. La fouille des sacs poubelles continue et la pêche aux indices est fructueuse. Un ticket de caisse daté du 14 février mène tout droit à une grande surface de bricolage de la périphérie d'Anvers. Pas de vidéosurveillance dans ce magasin, mais le vendeur se souvient bien de deux hommes qui s'étaient renseignés sur du matériel à souder, sur du scotch très résistant et sur de gros pieds de biche. Un autre ticket de caisse guide, lui, la police au supermarché Deleuze, où un homme a fait des provisions d'eau minérale, de sandwich et de chocolat. Cette fois, la vidéosurveillance est disponible. Elle montre un homme seul, entre 35 et 40 ans. La police italienne est sollicitée. Elle est en mesure de dire que ce personnage est très certainement le dénommé Ferdinando Finotto, un voleur, suspecté d'avoir déjà tenté de cambrioler une banque dans le même quartier des Diamantaires. Concernant Leonardo Notar Bartolo, l'Italie indique qu'il a déjà été condamné pour trafic de pierres précieuses. Quant à Elio D'Onorio, c'est un spécialiste de l'électronique. Le nom d'un quatrième homme apparaît dans le décor, Pietro Tavano, connu pour cambriolage. Aucun de ces hommes ne peut être localisé. Ils ont eu tout le temps de disparaître avec leur butin. Sans doute sont-ils déjà très loin de la Belgique, revenus se cacher en Italie. Tous les efforts se portent sur Leonardo Notar Bartolo, qui possédait un coffre dans la salle forte et semblait tout connaître des us et coutumes du Diamond Center. Il a loué ce coffre et un bureau, le bureau 64, 3 ans plus tôt. Il s'était présenté sur place avec son épouse Adriana Crudo. Le commissaire note que l'Italien s'est présenté comme joaillier, présentant la caution d'une obscure banque italienne. Il a obtenu un badge d'accès à l'immeuble, une place de parking, un accès à la salle des coffres. Pendant tous ces mois, il a eu le loisir d'observer dans le détail le fonctionnement du Diamond Center. Et ce fameux notar Bartolo serait donc un cheval de Troie. Il est rentré, il a permis à tous ses complices de rentrer après avoir étudié tous les lieux, c'est ce que pense la police. Patrick Cojol, ex-officier au SRPJ de Toulouse et qui auteur du livre « Les casses du siècle », quel est le profil de ce quatuor qui s'est évanoui dans la nature? Quatre Italiens.
Alors quatre Italiens qui sont des professionnels. Donc, qui font partie un petit peu de la bande de Turin, de l'école de Turin. Ce ne sont pas des mafieux, pas des mafieux du tout, mais ce sont des spécialistes, donc des coffres, de la sécurité, des alarmes. Et donc, ce que fait notar Bartolo, parce qu'il y a le week-end, vous voyez, il y a un rideau en fer qui est donc qui ferme, qui obture la rue, et donc il a fait rentrer un de ses complices. Un jour avant ou deux jours avant, et c'est un spécialiste en alarme, et il lui a fait étudier toutes les fréquences correspondant évidemment au dit rideau. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont pu ouvrir le rideau et pénétrer donc dans l'enceinte du Diamond Center.
Alors, il le fait effectivement rentrer par le parking. Oui. Il a un pass, lui, du parking. Il le fait rentrer. Effectivement, cet homme va complètement faire la radiographie, j'ai envie de dire, de tout le building, la radiographie électronique. Alors, on a affaire, vous l'avez dit, au crime organisé, mais plutôt à un gang de voleurs. Vous avez évoqué un mot qui fait tilt dans cette histoire et qui va revenir en permanence, c'est l'école de Turin. En quelques mots, c'est quoi, Patrick Cojol, l'école de Turin?
Ben, ce sont des spécialistes, des gars qui sont triés sur le volet, qui sont formés et qui sont conditionnés à ce genre de caste. Alors, vous voyez, il y a pas d'armes. Ce sont pas des voyous, ce sont pas des braqueurs. Mais il y a un savoir-faire, comme une école. Voilà, le terme porte bien son nom. Ça me fait penser à vous connaissez Arsène Lupin, évidemment, qui Maurice Leblanc avait repris le faire savoir de quelqu'un qui s'appelait Alexandre Jacob, qui était un Marseillais, le prince des voleurs, et qui avait monté une quincaillerie dans laquelle il faisait livrer des coffres. Et donc, il étudiait les coffres, et ensuite, il répercutait son savoir-faire en les ouvrant eux-mêmes chez les autres. Et là, c'est une école qui répercute un petit peu ce même mode opératoire.
Je comprends bien, on n'est pas aussi mieux placé que si on est effectivement à l'intérieur du coffre ou à l'intérieur de la salle forte. Et c'est ce qui s'est passé pour notar Bartolo qui pendant 3 ans, il faut le dire, va examiner, se faire discret, faire des photos, parler avec des personnes, tout connaître de la ronde des gardiens, etc. D'où le fait que effectivement cette entrée, elle va être assez facile. Eddy Vlischdrager, expert en diamants et en pierres précieuses et en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors, il y a beaucoup de pierres qui ont été emportées par les voleurs. Est-ce que c'est facile à négocier ces kilos de diamants?
Je dois dire d'abord, c'était au lieu, tout le monde a dit que c'était aux environs de 118 millions d'euros, mais les chiffres sont beaucoup plus hauts. L'on parle plutôt de 400 millions et même plus.
400 millions d'euros?
Oui,
c'est énorme, c'est énorme.
Il y avait énormément d'argent de sociétés qui avaient mis tout leur capital dans des diamants bruts, taillés, à moitié taillés, parce qu'il y avait aussi des tailleries. Il y avait des diamants qui étaient en confié, mais naturellement, si vous recevez des diamants confiés, ça veut dire que vous avez la responsabilité. S'il se passe quelque chose, vous devez rembourser.
Bien sûr.
Donc, les assurances, ils ont payé environ 1,5 million, deux, trois sociétés ont payé entre 1 million et 1,5 million de dédommagement, mais la plus grande partie de ces personnes n'étaient pas assurées. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un quartier tellement sécurisé que personne ne pouvait s'imaginer qu'un truc pareil pouvait arriver.
Et bien sûr.
En plus, d'autre part, les primes d'assurance, les blocs comme on dit, qui couvre les transports et le séjour dans les bureaux et tout ça, ça coûte horriblement cher. Vous avez des primes qu'on paye de 80 000, 100 000 euros par an. Alors, naturellement, les diamantaires, quand ils voient que tout est tellement bien sécurisé, on prend le risque, on dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de se faire assurer? Et malheureusement, quand ça arrive, c'est trop tard. Alors, c'est, oui, j'aurais dû, mais alors, il n'y a plus moyen.
Bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, notamment sur le montant totalement faramineux, 400 millions d'euros au bas mot de ce casque qui a rapporté beaucoup donc à ses auteurs, mais des auteurs qui sont négligents, Patrick Cojol, parce que finalement il y a cette erreur qu'ils commettent. Alors tant mieux pour les policiers, mais comment peut-on être aussi négligent d'aller balancer ses sacs poubelles dans un champ au risque qu'ils soient retrouvés?
Alors écoutez, là il y a peut-être deux options, deux versions. On peut toujours penser que dans l'euphorie, ils sont pressés de rentrer à l'Italie, donc ils ne prennent pas l'option de mettre ce sac dans une poubelle et qu'ils la jettent sur le bord de l'autoroute. Et là, évidemment, c'est un chasseur qui, quelques jours plus tard,
qui va retrouver le sac.
Qui le retrouve. Voilà, donc ça, c'est effectivement une possibilité. Alors après, certains ont dit qu'ils avaient éventuellement le fait comme le petit poussé, ils auraient laissé des traces.
Voilà, et on va voir ça, Patrick Cojol, cette histoire de petit poussé, parce qu'elle est intéressante et effectivement ça a été évoqué lors de l'enquête. La police d'Anvers est sur les traces de cette équipe qui semble avoir tout prévu ou presque. Pour le moment, impossible d'approcher ces hommes qui se sont évanouis dans la nature. L'un d'eux va toutefois réapparaître. Vendredi 21 février 2003, en fin d'après-midi, soit seulement 4 jours après la découverte du pillage de la salle des coffres, les policiers sont avertis de la présence dans les locaux du Diamond Center du plus recherché de ses locataires, l'Italien Leonardo Notarbartolo. Il ne semble pas se douter que les enquêteurs disposent de son nom et que les autorités italiennes l'ont désigné comme un membre possible de l'école de Turin, un gang de braqueurs astucieux. Notarbartolo s'est présenté comme une fleur à son bureau. Il a déclaré être rentré en toute urgence d'Italie. Il a demandé à la secrétaire du directeur si son coffre avait été fracturé lors du casse. Les policiers ne se précipitent pas pour l'interpeller. Ils veulent tout d'abord savoir où se trouve son pied-à-terre à Anvers. La question lui est posée sous prétexte de formalités administratives. Un quart d'heure plus tard, les policiers sont sur place. Quand les enquêteurs déboulent dans le deux pièces du joaillier turinois, ils tombent sur trois personnes. L'épouse de l'intéressé, Adriana Crudo, ainsi qu'un couple d'amis. Le trio est en train de déménager dans l'urgence le logement. Un tapis qui est roulé est prêt à être embarqué et saisi. Il n'a pas été nettoyé à fond. Il recèle des poussières de pierres précieuses. On trouve même dans le salon une minuscule émeraude. Ainsi que des bouteilles d'eau entamées, les mêmes que celles retrouvées dans les sacs poubelles de l'autoroute. Et la moitié manquante du sandwich au salami. Leonardo, Notarbartolo, son épouse et les couples d'amis sont interpellés et écroués pour association de malfaiteurs. Les carabiniers italiens, eux, sont mandatés pour aller perquisitionner chez l'intéressé à Trana, un bourg près de Turin. 17 diamants seulement sont présents dans un coffre photographié, mais curieusement pas saisis par les carabiniers. Des diamants qui vont aussitôt disparaître. Voilà donc pour l'arrestation du cerveau présumé du casse du siècle, le fameux Notarbartolo de l'école du crime de Turin. Patrick Cojol, vous avez été policier, vous connaissez parfaitement les casses, vous avez même écrit des livres là-dessus. Notarbartolo, il ne va pas dire grand-chose aux enquêteurs, mais vous avanciez une hypothèse intéressante, c'est que finalement, il paierait pour tout le monde en laissant des indices volontairement. Expliquez-nous.
C'est possible. Non, s'il revient, il vient en fait pour prendre la température, à mon avis. Alors, il dit qu'il est un simple joaillier, qu'il n'a rien à reprocher, bien évidemment. Il joue la carte de l'innocent petit agneau. Personne n'est dupe. Il le sait très bien, mais il joue son rôle. Il sait très bien, c'est un garçon intelligent, il a ouvert un coffre, il a loué quelque chose à son nom, il sait très bien que les enquêteurs vont forcément prendre le pédigré, si vous me permettez ça, le mot, de tous les propriétaires. Donc il le sait. Il sait aussi qu'ils vont prendre attache avec Europol et qu'ils vont savoir qu'il avait déjà été condamné. Tout ça, il le sait. Donc, il pèse le pour et le contre. Et il se dit, à ce moment-là, je me mets dans la gueule du loup, je me fais dévorer, entre guillemets, quelques années. Mmh. Pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de blessés. Et après, évidemment, j'aurai une retraite tranquille.
Avec mes diamants, etc.
L'argent
de mes diamants.
L'argent des diamants. Je vous rappelle que Muselin a fait pareil. Il s'est rendu, si je me souviens bien, à Monaco, après avoir été dans un pays de l'Est.
Ouais.
Et puis, il a été condamné pour vol simple.
Voilà. Alors là, oui, effectivement, ça peut se tenir. C'est-à-dire que l'organisation, la fameuse école de Turin, a sacrifié sa meilleure pièce, si je puis dire. Et puis, comme ça, plus personne ne sera poursuivi. En tout cas, il y aura une peine de prison pour l'intéressé. Et puis, tout le monde pourra récupérer les diamants. Eddie Vlijdrager, vous êtes expert en diamants et en pierres précieuses et aujourd'hui invité de l'heure du crime. Est-ce que c'est facile de négocier toutes ces pièces qui ont été volées dans le Diamond Center ?
Normalement, si ce sont des marchandises courantes, ce qui veut dire des meules, des pierres de 1 carat, 1 carat et demi maximum, c'est naturellement négociable dans certains secteurs, dans certains... Il y a des bijoutiers, des joailliers qui achètent ces marchandises sans demander l'origine. Ça arrive, oui. Il y a moyen donc de vendre, j'irai même plus loin, lorsqu'il s'agit de pièces très importantes, en général, c'est sur commande.
Je ne suis pas du tout un spécialiste comme vous du diamant, mais on m'a dit que lorsqu'il y a des très belles pièces, il suffit de retailler un petit peu pour que la pièce perde son identité. C'est vrai, ça ?
Si c'est une grosse pièce et qu'on la retaille, alors là, on doit quand même faire attention. Il y a toujours moyen de la... Parce que si une pièce importante est volée, tous les diamantaires sont avertis.
Mmh.
Donc, dans les salles des bourses, on affiche que telle et telle pierre a été volée. Donc, si on reçoit une pierre similaire, je parle d'un diamantaire, s'il reçoit une pièce similaire, un petit peu retaillée, directement, ça lui met la puce à l'oreille.
Et il doit évidemment signaler ce qu'il a pu acheter ou ce qu'on lui a proposé. Malgré ses silences, Leonardo Notar Bartolo ne va pas échapper à un procès. Il se dit étranger à l'affaire, mais tout l'accable. Il comparaîtra donc devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Ce lundi 25 octobre 2004, Leonardo Notar Bartolo fait son entrée entre deux policiers dans le tribunal correctionnel d'Anvers. À 51 ans, ce Turinois, bien habillé, petites lunettes, allure sportive, visage souriant, porte beau. Il est jugé avec son épouse Adriana Crudo et un de leurs amis. Ses vrais complices, les dénommés Finotto, Donorio et Tavano, n'ont pas pu être retrouvés. Les recherches entreprises côté italien sont restées infructueuses. Leonardo Notar Bartolo adopte la même attitude que lors de ses gardes à vue et de ses auditions chez le juge. Il refuse poliment de s'expliquer. Il indique sans aucune agressivité qu'il est aucunement mêlé à cette affaire. Il s'agit d'un grossier malentendu. Même si son appartenance à l'école de Turin, des braqueurs qui agissent par ruse, semble bel et bien établie. Il est condamné à la peine maximum, 10 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende. Son épouse et son ami, les déménageurs de l'appartement, sont relaxés faute de preuves. Jugement confirmé par la cour d'appel. Il va falloir attendre 3 années supplémentaires, automne 2007, pour que les 3 hommes manquant à l'appel soient enfin localisés, arrêtés et extradés vers la Belgique par les autorités italiennes. La police d'Anvers fait alors connaissance avec ces cambrioleurs chevronnés qui ont mis à sac la salle des coffres. Des hommes d'un certain âge, expérimentés, qui ne répondent à aucune question, affirment qu'ils ne se connaissent pas. Pietro Tavano, 55 ans, Ferdinando Finotto, 48 ans, et Elio Donorio, 54 ans, l'expert en électronique capable de faire taire les systèmes d'alarme les plus sophistiqués, sont jugés et condamnés 5 ans de prison, 5 000 euros d'amende pour chacun. La peine maximale pour des complices, selon le code pénal belge. Patrick Cojol, ancien policier, écrivain et auteur du livre « Les casses du siècle », 5 ans et 5 000 euros pour les complices, c'est pas beaucoup, j'ai envie de dire. 10 ans, c'est pas énorme non plus pour le cerveau du casse. La boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'ils ont, ils vont payer leurs dettes vis-à-vis de la justice belge et puis disparaître à nouveau ?
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un vol simple. Donc, ils ne prennent pas grand-chose. Ils se répartissent en cavale. Non seulement par-delà le stress de l'homme, il y a aussi... ça coûte très cher, vous savez, une cavale. Mmh. Donc là, ils prennent... Ils perdent un pion, comme vous dites, ou deux, mais après, ils sont tranquilles. Mmh. Donc, en fait, on voit que derrière, tout a été planifié, il y a une structure, voilà. Donc, tout a été... savamment, depuis des années, planifié.
Alors, ce sont effectivement des cambrioleurs ou des braqueurs, on les appelle comme on veut, qui sont chevronnés. Et évidemment, dans ce milieu-là, que vous connaissez bien, Patrick Cojol, c'est la loi du silence, c'est l'omerta qui prévaut. Ils disent rien, ces gens-là.
Mais ils disent rien. Alors surtout, si vous me permettez, surtout dans le milieu des joailliers, ils savent très bien que le silence est d'or. Et vous les interrogez, s'ils sont bien lunés, ils vous donnent l'heure. Et après, c'est terminé.
Ce qui est déjà pas mal avec une montre volée, par exemple.
Tout à fait, avec des diamants. Ouais. Mais voilà, donc ça fait partie aussi du job, ça fait partie du jeu, ça fait partie de leur savoir-faire.
Il y a un point qui est assez étonnant, ce sont ces 17 diamants qui avaient été photographiés chez Notar Bartolo, dans la maison qu'il occupait dans la banlieue de Turin. Les carabiniers les photographient, et puis, comme par hasard, quelqu'un est venu les chercher peu après.
Ils auraient dû les saisir, effectivement, mais bon, donc après, est-ce que où était son épouse ? Est-ce qu'elle avait été relâchée entre-temps ? Ou est-ce que quelqu'un avait la combinaison ? Voilà, ils auraient dû effectivement les saisir.
Et il faut bien le savoir que c'est la seule fois où on va revoir, en quelque sorte, une infime partie des diamants de ce casse. Eddy Vleeschdrager, expert en diamants et en pierres précieuses et en direct dans l'heure du crime depuis la Belgique. Selon vous, monsieur Vleeschdrager, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces diamants ?
Ben, les diamants, ils ont été vendus pas spécialement en Belgique ou en France ou en Italie, mais par exemple à l'Europe de l'Est ou bien exportés vers les pays en Extrême-Orient. Vous avez de la clientèle. Naturellement, c'est un métier qui est mondialisé, donc c'est possible que ça a été vendu en Extrême-Orient. Mais concernant le coffre qu'on a ouvert à Trana, la police... italienne, ils avaient trouvé 75 000 euros en cash, et ils avaient aussi trouvé des certificats de l'HRD, des certificats anversois, et ils ont saisi la marchandise et ils l'ont confiée aux deux fils de Leonardo.
Ah, pas de chance. Pas de chance parce que effectivement là ils auraient pu la garder, parce que la marchandise là en l'occurrence elle a disparu. Juste encore un tout petit mot, Eddy Vleeschdrager, lorsqu'on revend des diamants comme ça qui ont été volés, il y a une perte considérable, c'est-à-dire qu'ils ne sont évidemment pas vendus au prix auquel ils pourraient être vendus sur le marché.
Non, pas spécialement. Naturellement, ça dépend de vos clients. Si vous avez des clients qui peuvent employer ces marchandises et qui sont d'accord d'acheter des marchandises douteuses, bon, vous pouvez faire un prix convenable. Donc, je crois que le total de ce qui a été vendu ou bien qui est encore en stock doit quand même dépasser de loin les 118 millions qu'on avait annoncés.
Au début de l'affaire, évidemment. Et c'est ce qui est déjà un pactole considérable. Des pierres précieuses qui ne vont effectivement plus jamais refaire surface, perdues à tout jamais pour leurs propriétaires qui ne les récupéreront pas. Dimanche 14 mars 2009, Leonardo Notar Bartolo, le cerveau désigné du CAS, sort en toute discrétion de la prison belge de Hasselt, dans laquelle il a été écroué depuis 6 ans, détention préventive comprise. Il a été libéré dimanche après une décision de la commission de libération conditionnelle. Il est reparti directement pour l'Italie, son pays d'origine, et ne pourra plus revenir en Belgique, indique son avocat, maître Walter Damen. Avant de retrouver la liberté, l'Italien s'était confié à un journaliste américain. Il avait raconté qu'il avait agi sur ordre d'un négociant en diamants anversois et qu'il s'agissait d'une escroquerie à l'assurance. Autant d'éléments impossibles à vérifier, les trois complices ont eux aussi purgé leur peine et ont disparu sans faire le moindre commentaire. Le montant exact du CAS d'Anvers, jamais précisément établi, fluctue toujours entre 100 et 400 millions d'euros selon les estimations. Personne n'a jamais revu la couleur des pierres précieuses dérobées, hormis celle des 17 diamants aperçus en Italie. La justice belge a recensé dans cette affaire 150 victimes. Patrick Cojol, ancien policier en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime, j'ai envie de dire, cette histoire, elle n'a pas de morale finalement, parce que même s'il y a eu des condamnations et quelques années de prison pour les principaux acteurs de cette affaire, effectivement, on peut supposer qu'ils ont récupéré leurs biens à la sortie de ces années de prison.
Oui, absolument, que ce soit eux ou certains de leurs proches. Ils l'ont récupéré soit de façon liquide, immobilière ou autre. De toute manière, l'argent n'a pas été perdu pour tout le monde, c'est certain.
Est-ce que ces personnes, dès lors qu'elles ont passé quelques années en prison, est-ce qu'elles sont surveillées? Est-ce qu'elles sont suivies? Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, les carabiniers italiens ou bien la Guardia di Finanza en Italie surveillent ces personnes?
Alors oui, il y a quand même toujours une suspicion vis-à-vis d'eux. Il y a toujours, on essaye toujours, la police essaye toujours de trouver un élément pour raccrocher à la vérité. Peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle il y a eu ces confidences de Notar Bartolo, un journaliste d'un site WeRed, peut-être pour diluer un petit peu sa responsabilité, pour détourner vers quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas une raison aussi? Une part aussi de mégalomanie pour parler de lui, mais il y a toujours quand même, pour répondre à votre question, il y a toujours un suivi indirect, mais il est toujours.
Il a plus fait parler de lui, Notar Bartolo. Moi, j'ai pas retrouvé trace d'une quelconque réapparition dans un dossier.
Je crois qu'à sa libération, il avait été libéré en conditionnel, il n'avait pas respecté sa conditionnelle et il était reparti en prison dans quelque temps. Mais après, au niveau délictueux, non. Non, effectivement.
Edith Vlesch, dragueur en direct depuis la Belgique dans l'heure du crime, expert en diamants et en pierres précieuses. Question très simple, est-ce que la sécurité a changé dans le fameux quartier des Diamantaires, le kilomètre carré du diamant, comme on l'appelle, depuis ce casse du siècle?
Je dois dire que on améliore chaque jour. Chaque jour, il y a des nouvelles technologies, on améliore, les caméras, tout ce qui est électronique, mais aussi il y a plus de patrouilles, il y a quand même un contrôle de plus en plus sévère. Et comme je vous dis, ça doit s'adapter régulièrement. Maintenant, pour vous raconter quelque chose de piquant, vous avez parlé de Hajim de Bruycker, l'inspecteur.
Oui, tout à fait.
Et bien, ce même inspecteur a été attrapé quelques années plus tard, lui-même, la main dans le sac, comme on dit, un ripou. Et il a été aussi écroué, simplement pour l'anecdote de ce monsieur Hajim de Bruycker.
Oui, c'est incroyable ce que vous racontez, parce que un, je l'ignorais, bon ça d'accord, mais deux, il a fait un travail incroyable, Hajim de Bruycker, dans ce dossier. Il a remonté la filière. Est-ce qu'il a été fasciné par ces malfrats? Alors ça, c'est vraiment une suite de l'affaire qui est étonnante.
Eh ben oui, quand on met le chat trop près du pot de lait, qu'est-ce que vous voulez, hein?
Le chat se jette sur le lait, hein, c'est bien ça.
Eh oui.
Est-ce que la confiance, Edith Vlesch-Drager, est-ce que la confiance est revenue à Anvers après ce casse? Parce qu'on a été échaudés, les gens n'osaient plus déposer leurs diamants.
Non, disons que à ce point de vue-là, les salles des coffres sont de nouveau à remplir. J'espère que Monsieur Leonardo ne nous écoute pas, mais il y a de nouveau plein de marchandises. Anvers reprend après la crise que nous avons eue du corona, mais tout reprend. Le secteur, il y a beaucoup d'importations. Exportation.
Le secteur est florissant et il reprend effectivement, oui. il reprend de la vigueur. Je voudrais donner juste encore un mot avec Patrick Cojol. Dernier mot très court. C'est incroyable ce scénario. C'est rare d'arriver à ce niveau de perfection dans l'attaque d'une salle des coffres.
Oui. Alors il y a eu d'autres faits. Pour à mon tour donner une petite anecdote.
Très vite.
Très vite. L'équivalent aux États-Unis où une bande a fait un cast exceptionnel sur la côte est. Ils se sont remisés ensuite dans une maison qu'ils ont toutes passées à la chaux. Il n'y avait que des hommes. Et quand ils sont partis, ils avaient pensé à tout sauf à la vaisselle qu'ils avaient laissée dans la lave-vaisselle. Ils avaient oublié d'appuyer sur le bouton. On dit la vaisselle, et ils ont été encrustés, comme on dit, dans notre jargon, à cause de ça, parce qu'il y avait évidemment des empreintes sur les assiettes.
Et comme quoi, voilà, c'est toujours le détail qui tue et le détail qui fait trébucher même les meilleurs cambrioleurs, et c'était le cas dans cette affaire du casse du siècle. Merci beaucoup Patrick Cojol et Eddie Vlechdrager d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.